Vous êtes sur RTL.
Place à l'info, c'est parti, RTL Soir. Julien Cellier, bonsoir Julien.
Effectivement, c'est parti. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir et merci de votre fidélité. On s'occupe de vous maintenant. Pendant deux heures, vous allez apprendre plein de choses avec le sourire. Qui plus est, à mes côtés, Marion Calais, Cyprien Sini. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Alors ce soir, un menu encore riche et varié avec entre autres Tony Parker invité, Emmanuel Macron qui recadre sa première ministre, Novak Djokovic et le Kosovo ou encore des manifs chez Mickey.
Le rendez-vous à noter, c'est à 18h15. Tony Parker sera donc votre invité, la légende du basket français, 4 fois champion NBA.
Son club, l'ASVEL, joue ce soir face au phénomène Victor Wembanyama en demi-finale du championnat de France. Wemby, le gamin de 2m21 qui rend dingue la planète basket. Le prodige va jouer dans quelques semaines aux Spurs de San Antonio. Tiens, tiens, là justement, où Parker a tout gagné. Tipeee se confie dans un quart d'heure sur cet héritage. Auparavant, il y a votre journal dans quelques secondes avec à la une Marion.
Cette question, Elisabeth Borne tiendra-t-elle vraiment les 100 jours? La première ministre, une nouvelle fois recadrée par le président, cette fois sur la façon de combattre l'extrême droite. La condamnation à 1 an de prison ferme, mais sans maintien en détention du rugbyman Mohamed Awas pour violence conjugale. Et puis la sensation à Roland-Garros, 3e jour. Et le numéro 2, Daniil Medvedev, sorti par le 172e joueur mondial.
À suivre aussi dans cette première demi-heure, la brigade RTL qui va vous expliquer pourquoi Djokovic a secoué Roland Garros avec des déclarations polémiques sur le Kosovo et puis les dessous de l'actu, les dessous des manifs chez Mickey à Disneyland. 18h40, on va défaire le monde, on va vous proposer 20 minutes d'infos comme nulle part ailleurs avec Cyprien Sini et la bande. Le programme, Cyprien.
On va défaire les glaces, miam miam. Vous allez comprendre pourquoi, malgré l'inflation, les ventes de crème glacée ne cessent d'augmenter. Au menu également, la Colombie qui met tout en œuvre pour retrouver les petits naufragés de la jungle. Et puis alors, 10 stops sur 200 mètres pour ralentir le trafic. C'est une méthode assez radicale, mais ça marche.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps, tous les quarts d'heure. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir
si
à tous.
Si on défait les glaces, c'est parce qu'il fait chaud.
Eh oui, il va faire chaud encore demain et ça reste orageux dans le sud.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et un nouveau désaccord exposé au grand jour. On se demande plus que jamais ce soir ce qui unit encore Emmanuel Macron et sa première ministre Elisabeth Borne.
Déjà pas tout à fait raccord sur le calendrier d'une loi immigration ou sur le comportement à adopter vis-à-vis des syndicats. Cette fois, c'est sur la façon de combattre le Rassemblement national que Matignon et l'Élysée s'opposent.
Alors bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Épisode 1, dimanche matin, la première ministre qualifie les représentants du RN d'héritiers de Pétain. 48 heures plus tard, épisode 2, Emmanuel Macron reprend sèchement Elisabeth Borne en Conseil des ministres.
Oui, en Macronie, ce soir, on parle même d'une humiliation pour Elisabeth Borne. Que s'est-il passé? Imaginez quand même la scène. On est autour de la grande table du Conseil des ministres et le président fait la leçon à Elisabeth Borne devant tout le monde et sans jamais prononcer son nom ou s'adresser directement à elle. La question ce matin, c'était comment combattre l'extrême droite. Elisabeth Borne avait donc renvoyé Marine Le Pen aux racines pétainistes du Front National. Emmanuel Macron tranche. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes. Voilà ce qu'il a dit ce matin. Et il a ajouté, il faut décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences, pas par des mots des années 90 qui ne fonctionnent plus. Fin de citation. Bon, derrière tout ça, il y a une autre bataille qui se joue. On va le dire franchement, le président ne supporte plus sa première ministre et tous les moyens sont bons pour le faire savoir. Il trouve qu'elle ne tient pas son gouvernement. Il trouve aussi qu'elle a tiré une balle dans le pied du quinquennat en disant qu'elle ne voulait plus utiliser le 49-3. Bref, le divorce ne fait plus aucun doute, à court ou très court terme. La seule chose qu'on ignore, c'est la date.
Et je vous renvoie vers cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Quelle relation entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron? Vous tapez Borne et Focus dans la barre de recherche sur notre site internet rtl.fr.
Alors, dans ce compte, texte, Elisabeth Borne a aujourd'hui dénoncé les mensonges et la démagogie des oppositions sur la réforme des retraites.
Avec cette proposition de loi visant à abroger le texte, proposition jugée aujourd'hui recevable par le patron de la commission des finances, l'insoumis Éric Coquerel, examen en commission demain avant un vote prévu normalement en séance le 8 juin prochain.
Normalement. Et avec ce vote, en ligne de mire, l'intersyndicale bat le rappel des troupes.
Appelant à une mobilisation massive pour le 6 juin, dans une semaine tout juste, 14e journée de grève. grève qui devrait être, Nery Saïmani, la dernière.
Oui, même les syndicats les plus jusqu'au boutistes sont prudents, à l'image de Sébastien Ménesplier de la CGT, qui ne veut pas s'avancer sur une énième journée de grève.
Dire qu'il y en aura une 15e, ça je le certifierai pas aujourd'hui, mais dire qu'on se reverra pour en parler, ça certainement qu'on le fera, puisque c'est ce qu'on s'est dit dans la conclusion de la réunion.
Chez Solidaires, Simon Dutheil affirme qu'il n'y aura pas d'appel à la grève. Mais alors, que fera l'intersyndicale ensuite? La stratégie est approximative.
On ne va pas rester les bras ballants, on va communiquer. S'il n'y a pas de vote à l'Assemblée, on portera, on va proposer à l'intersyndicale d'avoir une histoire en disant « c'est quand même vraiment pas bien », y compris dans notre système démocratique.
Dire « c'est vraiment pas bien », est-ce la fin du combat contre la réforme des retraites? Réponse:
on n'a pas beaucoup de ressources supplémentaires sur la question des retraites ensuite, c'est vrai. Mais est-ce que le sujet il va disparaître? Moi, je ne crois pas. Je crois que cette question des retraites, elle va continuer à être au cœur de l'action politique, d'une part, et de la situation sociale et syndicale, d'autre part, en tout cas pour nous en priorité.
Pour l'heure, l'intersyndicale prépare un autre chapitre, celui d'un agenda social bien rempli avec des propositions communes en cours de rédaction.
La précision signée Nerissa Emani, merci.
RTL Soir.
Le procès maintenant du pilier du 15 de France, Mohamed Awas. Pour violence conjugale, il est condamné à 1 an de prison ferme.
Sans maintien en détention, décision du tribunal correctionnel de Montpellier. Où vous avez suivi l'audience pour RTL. Patrick Hisson, bonsoir.
Oui.
Et où le rugbyman est revenu sur ses coups portés sur sa femme en public vendredi dernier.
Oui, et avec parfois beaucoup de maladresse quand Mohamed Awas tente d'expliquer son geste, le balayage, la gifle, la contrainte de monter dans sa voiture parce qu'il avait surpris sa femme en train de fumer et qu'il était aussi un peu jaloux. Il s'excuse, il regrette, il dit qu'il a mal agi avant d'ajouter qu'il l'a fait par amour. Des propos dans lesquels la procureure s'est engouffrée pour dire que le risque de récidive était réel avant de demander 18 mois de prison ferme, d'où le soulagement ce soir de cette peine aménagée pour l'avocat de Mohamed Awas, Marc Alix, car son client risquait beaucoup plus lourd.
Ce qu'il a fait vendredi, c'est inadmissible. Mais c'est pas pour autant, compte tenu de tout ce que j'ai plaidé, qu'il méritait d'aller en prison. Et c'est pour ça que je suis extrêmement soulagé. Donc ce soir, tu sors quand même, ce soir, je lui dis Mohamed. Et il pleurait.
Karima est la sœur d'Iman, la femme de Mohamed Awas.
Je pense qu'il est conscient de son erreur, que ça lui servira bien de leçon, parce qu'il a passé 4 jours enfermé, isolé. Je pense qu'il a très bien réfléchi, qu'il ne recommencera plus.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre sœur?
Qu'elle souhaite qu'il sorte ce soir.
Iman Awas, qui assistait à l'audience, va donc retrouver son mari dès ce soir.
Et sanctions sportives aussi ce soir pour Mohamed Awas, puisque son club de Clermont annonce qu'il ne pourra plus porter ses couleurs. L'autopsie du corps d'Iris, cette jeune femme de 24 ans retrouvée morte à Lanester le week-end dernier, elle confirme l'origine criminelle de son décès. Nombreuses traces de coups au niveau de la tête, des traces d'étranglement également. C'est désormais la police judiciaire de Rennes qui est chargée de l'affaire. On y reviendra dans le journal de 19h. Et puis le rapport sévère de la commission d'enquête parlementaire sur la mort et l'agression mortelle d'Yvan Colonna, tué à la prison d'Arles par un détenu radicalisé, condamné notamment dans un dossier terroriste, sont notamment pointés de graves défaillances dans l'appréciation de sa dangerosité. Commission qui révèle également dans son rapport que 2 préfets en activité se seraient réjouis sur une boucle WhatsApp privée de l'agression mortelle d'Yvan Colonna, condamné, on le rappelle, pour l'assassinat du préfet Erignac.
18h, 19h15. RTL Soir.
Pour la première fois depuis Airbus, la France et l'Europe créent une nouvelle filière industrielle. Ce sont les mots du ministre de l'économie Bruno Le Maire lors de l'inauguration d'une première gigantesque usine de batteries électriques.
Oui, à Douvrin, dans le Pas-de-Calais, cette Gigafactory. Vous vous êtes rendu pour RTL, Franck Hanson, un site aux dimensions impressionnantes et qui donne en fait un avant-goût de ce que sera l'industrie automobile de demain.
Oui, de quoi donner le tournis sur ce site de 34 hectares. C'est un bâtiment de 600 mètres de long, 30 mètres de haut. Il y en aura 3, un assemblage de cubes avec des machines connectées où sont montées ces batteries, presque de la cuisine. Pour Cédric Souillard, le directeur de production ACC.
On a des salles qui sont sous atmosphère, donc c'est les salles sèches. On achète de la poudre, on en fait comme une pâte à crêpes qu'on enduit sur un support. Ensuite, on le découpe et on l'empile comme un millefeuille. Et quand on met de l'électricité dans tout ça, bah ça fait une batterie. C'est un peu magique.
Rien à voir avec les chaînes de montage automobile. Angélique est une ancienne de l'usine Stellantis, juste en face.
Il faut forcément être muni d'une charlotte, de masques, de combinaisons hermétiques, de la tête aux pieds en fait. La poussière peut engendrer une explosion. C'est vraiment une autre façon de penser.
Les ouvriers de la voiture thermique ne pourront pas tous se reclasser dans ces usines. Mais c'est une nouvelle filière qui démarre, selon le ministre Bruno Le Maire.
C'est ça qui nous permettra d'avoir un nombre d'emplois qui augmentera, qui fera plus que compenser les pertes d'emplois par ailleurs.
D'ici l'an prochain, cette Gigafactory accueillera un millier d'employés qui sortiront 56 000 batteries par jour.
Oh, Franck Hanson à Douvrin pour RTL.
Et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec ce test RTL. Nous avons essayé d'obtenir cet après-midi un arrêt maladie factice. Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, le numéro 2 mondial, Medvedev, sorti par le 172e mondial à Roland-Garros. On se retrouve juste après ça.
Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
18h11, la suite du journal dans RTL Soir. C'est l'un des axes de la lutte contre la fraude sociale annoncée par le gouvernement. La traque aux vrais faux arrêts maladie, il faut dire qu'il n'a jamais été aussi facile de se faire porter pâle.
Oui, la preuve avec vous, Hermine Leclèche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez fait le test cet après-midi via les réseaux sociaux et on l'annonce à nos patrons ce soir. Vous êtes arrêté pour une semaine.
Oui, et c'est noté noir sur blanc sur cet arrêt de travail falsifié que j'ai dans ma main. Je l'ai acheté 40 euros en moins de 10 minutes sur le réseau social Snapchat. On y trouve des dizaines de comptes qui proposent ce service. Rien de bien compliqué, j'ai tapé dans la barre de recherche le mot « arrêt » et après quelques messages envoyés, j'ai reçu plusieurs propositions allant de 20 à 40 euros le document. Mes interlocuteurs m'ont demandé mon nom, mon prénom, mon numéro de sécurité sociale et bien sûr les dates de mon futur arrêt de travail. Une fois le virement effectué, j'ai reçu par email mon document avec la signature d'un médecin parisien.
Donc dans l'affaire, il y a des médecins qui sont complices.
Pas forcément. Soit les escrocs usurpent leur identité, dans ce cas-là, ils utilisent leur document officiel vierge qu'ils ont récupéré. Soit, oui, certains sont complices. Des profils m'ont affirmé qu'ils étaient soignants et qu'ils passaient par la plateforme habituelle réservée aux professionnels de santé.
Et pour ceux qui seraient tentés, Hermine, que risquent les clients et les vendeurs ?
Eh bien, une condamnation pour faux et usage de faux. C'est simple, c'est 3 ans de prison et 15 000 euros d'amende pour les clients comme pour les vendeurs.
Et 450 cyber-enquêteurs seront bientôt mobilisés dans cette traque alors que ces arrêts maladie falsifiés coûtent chaque année un peu plus de 3 millions d'euros à la Sécurité sociale.
On file à Roland-Garros maintenant, troisième jour, et une première très, 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 très grosse surprise.
RTL Roland-Garros 2023.
Bonsoir Jean-Michel Rascol.
Bonsoir.
Le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, sorti par un jeune Brésilien, 172e joueur mondial.
Oui, Daniil Medvedev n'est définitivement pas un joueur de terre. Il ne glisse pas, il est toujours en retard dans ses frappes. Il n'a pas fait preuve d'un mental à toute épreuve, se mettant même le public à dos pour avoir imaginé des balles fautes qui ne l'étaient pas. L'immense Medvedev, 1m98, était cet après-midi un joueur ordinaire, emprunté loin du niveau qu'il était parvenu à atteindre pour gagner le tournoi de Rome. Tant mieux pour Thiago Cebos Wild, brésilien à la réputation sulfureuse. Le seul moustachu de Roland-Garros, c'est bien le seul signe distinctif qui le caractérise. Il compte désormais une victoire de prestige pour lancer une carrière récompensée seulement jusque-là chez les juniors. Côté français, qualification d'Océane Dodin et de Diane Paris. Hugo Gaston a disparu. Spectacle garanti ce soir avec l'une des dernières séances de Gaël Monfils.
Un tour des terrains avec Jean-Michel Rascol à Roland-Garros, merci. Et puis après Delphine Cascarino, nouveau forfait chez les Bleus du foot à moins de 2 mois du Mondial. Encore une attaquante au tapis en la personne de Marie-Antoinette Katoto, blessée à un genou.
Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Un mot du temps pour demain, toujours assez estival.
C'est vrai qu'on a encore beaucoup de soleil demain, alors même si demain matin on a un petit peu de nuages sur le Nord-Bretagne et le Cotentin. Pareil, quelques nuages et quelques gouttes dans le sud, entre le sud-ouest et les Alpes, avec même des orages dès le matin entre le Languedoc et les Bouches-du-Rhône. Ces orages vont généraliser sur le sud avec localement de la grêle même dans le sud-ouest. Le littoral méditerranéen sera épargné évidemment. Puis on a toujours ce petit vent de nord-est mais qui sera moins fort. Demain du coup le ressenti sera plus agréable. 18 à 24 degrés près de la Manche dans l'après-midi, 24 à 27 au nord, jusqu'à 30 degrés dans le sud.
Mais comment vous avez attrapé froid là? Parce que la gorge ça a pas...
Faut vraiment que je le dise. J'étais à Roland-Garros hier, mais j'étais côté ombre. Il y avait beaucoup de vent. Il y avait ce fameux vent de nord-est qui m'a tué et j'ai plus de voix. Voilà. Mais sinon, c'était génial.
Bon, on espère. Voilà. Merci beaucoup, Peggy.
La brigade RTL Soir.
Tiens, alors justement, parlons de Roland Garros, parce que pendant que vous êtes rapié froid hier, cher Peggy, en regardant Djokovic, vous avez noté le coup d'éclat du Serbe hier, porte d'Auteuil. On va essayer de le comprendre d'ailleurs maintenant avec la brigade RTL, parce que la star du tennis s'est qualifiée pour le deuxième tour. Et après sa victoire, Djoko a signé, c'est la tradition, la caméra de télé sur le court. Mais il a aussi écrit un message polémique au marqueur sur cette caméra. Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie. Bonsoir Brice Dugénie.
Bonsoir.
Pourquoi ce message politique là maintenant ?
Eh bien parce que les tensions montent depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois au Kosovo, notamment dans le nord du pays qui est proche de la Serbie, le pays de Djokovic. Une partie en fait de la minorité serbe du Kosovo refuse de se soumettre au pouvoir central albanais. Donc dans ce contexte qui est déjà très tendu, il y a eu des élections municipales, la communauté serbe a dit « nous ne voulons pas y participer, nous boycottons ». Moins de 5% de participation et pourtant les candidats élus albanais acquis à la cause de la capitale ont quand même été validés. Résultat, les manifestants pro-serbes ont manifesté, les forces de l'ordre aidées par la KFOR, vous savez, ce sont ces unités militaires de l'OTAN qui sont chargées de faire régner la sécurité au Kosovo, sont intervenues. Résultat, affrontement ultra-violent entre forces de l'ordre et manifestants, une trentaine de militaires a été blessés. Et c'est dans ce contexte très tendu qu'intervient ce message de Djoko qui prend fait et cause pour la Serbie.
Réexpliquez-nous, pourquoi la situation reste explosive au Kosovo presque 25 ans maintenant après la guerre?
Mais lorsque le Kosovo a proclamé son indépendance, c'était en 2008, ce pays il a été reconnu par une partie de la communauté internationale. Alors il y a eu des pays européens, il y a eu les États-Unis, mais la Serbie, elle a toujours refusé l'existence de cet État, en fait, parce qu'elle considère que le Kosovo, ou tout au moins une partie du nord de Kosovo, appartient à la Serbie, et notamment c'est cette partie où se trouve cette communauté. Ça appartient à l'histoire, à la culture serbe. C'est d'ailleurs ce que dit Djokovic dans son message. Et ces derniers temps, sur fond de guerre en Ukraine, il y a des revendications territoriales, c'est-à-dire certains ultranationalistes serbes comparent le Kosovo pour eux à la Crimée pour la Russie, c'est-à-dire une région qui doit revenir de gré ou de force dans le giron de la Serbie. Évidemment, ça provoque des tensions. Le contexte devient explosif. Ça faisait plus de 10 ans que des militaires de la KFOR n'avaient pas été impliqués dans des affrontements au Kosovo.
Les explications de Brice Dugénie ce soir pour RTL nécessaires après ce coup d'éclat donc de Djokovic sur le court central à Roland-Garros. Dans quelques secondes, restez avec nous. On va accueillir un invité exceptionnel. C'est la légende du basket français, Tony Parker. Son héritage est visiblement assuré en NBA puisque le phénomène Wembanyama va bientôt jouer dans l'équipe où Parker a tout gagné, les Spurs de San Antonio. Antonio au Texas. Tipeee se confie ce soir sur cette succession en quelque sorte et surtout sur ce gamin de 2m21 qui affole toute la planète sport. A tout de suite.
RTL Soir.
Julien Cellier.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, RTL Soir, toujours avec vous et un invité exceptionnel maintenant, la légende du basket français, 4 fois champion NBA, bientôt intronisé au Hall of Fame, le panthéon du basket US, aujourd'hui président de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne. Bonsoir Tony Parker.
Bonsoir.
Merci d'être notre invité dans RTL Soir, d'autant que ce soir, votre club chez les hommes va jouer en demi-finale du championnat de France à Bercy, deuxième match de la série face à Boulogne-le-Valois, face au phénomène Victor Wembanyama, ce géant français de 2m21 qui affole la planète basket. Vos joueurs ont perdu le premier match dimanche. Vous êtes triple tenant du titre. Vous restez serein ?
Oui, bien sûr. C'est qu'un match. Je trouve ça juste génial pour le basket français de remplir 15 000 personnes en 3-4 jours. C'est génial.
Si la demi se joue à Bercy, c'est aussi parce que Wembanyama attire les foules. Il va jouer en NBA dans quelques semaines. Sauf surprise au San Antonio Spurs au Texas, là où vous avez tout gagné. Quand vous avez appris qu'il allait rejoindre les Spurs, comment vous avez réagi? Il y a une forme d'héritage, il y a une fierté.
Moi, j'étais vraiment content pour lui, content pour sa famille. Je savais que c'était là où il voulait aller. Donc, avec la loterie, on ne sait jamais. Parce que Houston et Détroit, ça n'a pas été pareil. Là, il arrive dans une franchise qui a une culture de la gagne, qui a déjà gagné les trophées. Il aura un des meilleurs coachs de l'histoire de la NBA. Donc, c'est une bonne base et c'est bien pour commencer.
La moitié de la France, si ce n'est la France entière, voulait que les Spurs aient le premier choix. C'est ce qu'il a dit Wembanyama. Parce qu'il y a cet héritage, parce que toute la France a envie qu'il suive vos traces. Vous avez ressenti cette envie du public français de le voir arriver dans la franchise où vous avez tout gagné?
Ouais, je l'ai ressenti. Je savais que, comme il l'a dit, presque toute la France voulait qu'il aille aux Spurs. Et moi, je suis juste content pour lui parce que je sais que c'est là où il voulait aller. Tu le vois sur sa famille, son frère, sa sœur. Enfin, tout le monde était content qu'il aille à San Antonio.
Vous avez échangé depuis avec Greg Popovich, le coach des Spurs que vous connaissez par cœur, qui est un coach de légende aux États-Unis.
Bien sûr. Ouais, il est content. On en a parlé et je pense qu'il a hâte de lui parler et découvrir un peu le personnage parce qu'au-delà du talent, au-delà du basket, ce qui est important pour Pop, c'est sa mentalité. et de savoir s'il aura un gagnant, et donc parce qu'il y aura quand même beaucoup de pression, voilà, à gérer. Et donc on a pas mal échangé, et de toute façon c'est un bon gamin, il a une bonne tête, il a une super bonne famille, et il sera prêt pour le challenge.
Et vous avez échangé avec Wemby depuis l'annonce?
Je l'ai félicité, après je l'ai pas encore eu en texto. Bah c'est un peu difficile, on joue l'un contre l'autre en playoff.
C'est vrai, c'est particulier.
Donc, on va pas trop se parler maintenant parce que là on est adversaire.
Cette folie Wemby qui gagne la France, les États-Unis, presque le monde entier, les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas grand-chose au basket se disent peut-être, mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop pour un gamin? Vous qui l'avez connu, il a joué aussi à l'ASVEL, cette hype, elle est justifiée? Il est vraiment si spécial?
Elle est méritée. Elle est méritée. Il a vraiment un talent incroyable. C'est un joueur qu'on n'a jamais vu dans le basket, de faire 2m20, 2m21 et de bouger comme un meneur de jeu. On n'a jamais vu ça. Et donc maintenant... le plus important, c'est qu'il continue à progresser, et c'est pour ça que je suis content qu'il est aux Spurs, parce que je sais qu'il va avoir de bonnes bases, il va bien commencer, et il a vraiment le potentiel et il a vraiment une chance de faire une carrière à la Tim Duncan.
Juste pour terminer sur Wemby, en NBA, et vous connaissez par cœur ce championnat, il y a 82 matchs, il va se heurter, comme disait la légende Shaquille O'Neal, à des gars qui sont très costauds et qui vont lui rentrer dedans. Il faut un temps d'adaptation quand on arrive en NBA.
Je ne m'inquiète pas pour lui.
La NBA, donc vous la connaissez par cœur, vous allez être intronisé au Hall of Fame le 12 août prochain, c'est le panthéon du basket US qui réunit toutes les légendes de la NBA. Quand on vous l'a annoncé, quand vous l'avez appris, comment vous avez réagi?
C'est un honneur de rentrer au Hall of Fame. Et quand tu reçois le coup de fil de Jerry, c'est vraiment quelque chose de spécial.
Il y a 200 joueurs environ au Hall of Fame, 14 Européens seulement. Vous allez rejoindre les Michael Jordan, les Bill Russell, les Kareem Abdul-Jabbar, les Magic Johnson au Hall of Fame. Quand on apprend ça, est-ce qu'on se souvient du gamin qu'on a été qui rêvait simplement d'aller au NBA, j'imagine?
Bah, je pense que là où ça va vraiment faire quelque chose, c'est quand on sera là-bas. Là, j'ai du mal un peu à imaginer, à part les premiers jours qu'on a eu à Houston, quand on a eu l'annonce et qu'on est allé là-bas et qu'on était au milieu des légendes. Mais là où je pense que tu vas vraiment réaliser, c'est quand je serai là-bas, dans le musée. Je pense que c'est là où tu vas vraiment commencer à se dire quand même.
Vous serez le premier Français au Hall of Fame. Vous êtes naturellement l'un des ambassadeurs aussi des JO de Paris 2024, évidemment. Au jeu, justement, vos anciens coéquipiers, avec aussi Wembanyama désormais, ils peuvent viser l'or, on a envie d'y croire.
Oui, ils peuvent, ils ont le talent. Après, les États-Unis, s'ils envoient leur meilleure équipe, c'est toujours très très difficile de battre les États-Unis. Au basket, ils sont archi dominants. Donc s'ils envoient tous les meilleurs joueurs, ça ne va pas être facile. Mais après, on a un vrai potentiel dans cette équipe de France. L'avenir va être très très bien. Déjà, on a fait médaille d'argent au dernier JO, ce qui met une petite pression pour essayer de faire aussi bien, parce qu'il faut aller en finale pour faire aussi bien. Mais bon, on sera à domicile et je pense qu'il y aura tout le public français derrière eux.
Restons sur l'équipe de France féminine maintenant. Il y a l'Euro qui débute dans 15 jours et la France se prive de sa meilleure joueuse, Marine Joannès, tout juste championne de France avec vous, avec l'ASVEL. Le staff n'a pas voulu la retenir parce qu'elle voulait faire un aller-retour express aux États-Unis pour signer avec sa nouvelle équipe. Je crois que vous n'arrivez pas trop à comprendre la décision.
Je me suis déjà exprimé sur ce sujet, je ne vais pas revenir dessus.
Vous avez échangé avec Marine depuis son éviction, entre guillemets?
Et c'est ma joueuse, bien sûr.
Ouais.
Je ne vais pas raconter ce qu'on s'est dit avec Marine.
L'ASVEL, féminine, ça c'est une fierté, championne de France, Eurocoupe. Rien ne leur résiste.
C'était une très très bonne saison pour nous. Franchement, une saison historique. Champion d'Europe pour la première fois et on récupère le titre de champion de France. Ça fait plaisir. Maintenant, j'ai envie que, voilà, qu'on reste concentré, qu'on continue à construire. On a encore beaucoup de choses à accomplir avec cette équipe. Mais c'est vrai que cette saison, c'était vraiment une belle saison.
Il y a l'ASVEL. Vous avez aussi des chevaux. Vous travaillez sur votre station de sport d'hiver de Villard-de-Lans. Vous êtes ambassadeur et associé de Smart Good Things, des boissons bien-être. Vous êtes peut-être le retraité dans le monde du sport le plus occupé. Vous aviez peur de vous ennuyer?
J'avais envie de redonner à mon pays. Moi, je suis animé par la transmission et ça a commencé avec le club de basket, le club féminin, l'académie. Et après, petit à petit, t'as d'autres opportunités et t'évolues. Et c'est vrai que Smart Good Things, c'est un moyen pour moi d'avoir un impact sur notre société. Plus je vieillis, plus t'as envie d'investir dans des choses qui peuvent vraiment faire la différence. Et donc, cette histoire avec Serge Bueno, ça m'a touché droit au cœur. La première fois que je l'ai rencontré, il y a un an et demi. Et c'est vrai que maintenant, c'est un peu mon quotidien et de faire grossir cette société. J'y crois énormément. On travaille sur des thèmes qui me touchent à cœur, que ce soit l'éducation, les aînés ou le rôle de la femme dans notre société. Tout ça, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Et avec Smart Good Things, on travaille tous les jours pour justement améliorer tout ça.
Pour terminer, est-ce que je peux vous demander un pronostic pour la finale NBA? Parce que depuis cette nuit, on connaît l'affiche de la finale NBA, Denver face à Miami. Vous avez un favori?
J'aime pas trop, moi, les pronostics. Que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne. Merci, Tony Parker, merci d'avoir été notre invité ce soir sur RTL. Bonne chance avant ce Boulogne-Asvel, donc ce soir, en demi-finale du championnat de France à Bercy. Merci d'avoir été notre invité.
Merci.
RTL Soir.
Allez, on range le ballon de basket maintenant et on va vous emmener, changement d'ambiance, chez Mickey dans RTL Soir avec des manifs devant le célèbre château de Disneyland Paris. Alors pourquoi? Que se passe-t-il? On va vous expliquer tout ça dans les dessous de l'actu et puis dans Laissez-vous tenter dernière. Un peu de jardinage, un peu de littérature, on va cueillir des roses tous ensemble. On vous retrouve dans quelques secondes, vous restez avec nous.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL, s'informer ensemble.
RTL Soir à votre service, 18h31.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
Avant de partir à Disneyland, on va vous rappeler les trois titres de l'actu à retenir. Et c'est avec vous, bien entendu, Marion.
Des mots des années 90. On ne combat pas l'extrême droite avec des arguments moraux. Emmanuel Macron recadre sèchement Elisabeth Borne en Conseil des ministres. C'était ce matin après que la première ministre a renvoyé ce week-end le RN à ses origines. Origine pétainiste. La condamnation de Mohamed Awas, 1 an de prison ferme, sans maintien en détention pour violence conjugale. Et puis le coup de tonnerre à Roland-Garros, Jean-Michel Rascol, le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, sorti par un inconnu brésilien.
Oui, Thiago, c'est beau. Wide, Medvedev a pris son gros sac après ce petit match. Il était vexé. Il n'est toujours pas annoncé en conférence de presse. Et son vainqueur, lui, est aux anges puisqu'il accède pour la première fois de sa carrière à un deuxième tour en grand chelem. Notez que Richard Gasquet vient de concéder la première manche face à Arthur Rinderknecht, 6-4. Mais c'est Gasquet qui mène 2-0 dans le deuxième set.
Merci Jean-Michel.
Inconnu brésilien mais avec une très belle moustache.
Exactement, un vrai look en tout cas.
Un sacré look, ouais. Le temps pour demain, s'il vous plaît.
Encore beau et chaud avec beaucoup de soleil sur les deux tiers nord du pays. En revanche, dans le sud, sur un tiers sud, ça reste orageux. Arrêtez de vous moquer, s'il vous plaît, Julien. Le littoral méditerranéen sera épargné. Côté température, 18 à 24 près de la Manche, 24 à 27 au nord et jusqu'à 30 degrés dans le sud.
Attraper froid, Roland-Garros, ça me
c'est
dépasse.
C'est fou, hein, bah ouais, bah moi aussi, moi non plus, je pensais pas.
La météo signée Claude Barzotti.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Les dessous ce soir des manifs chez Mickey. 1000 salariés en colère, drapeau de la CGT de l'UNSA ce matin devant le mythique château de la Belle au Bois Dormant à Disneyland Paris. Image franchement saisissante. On va essayer de comprendre pourquoi la colère gronde dans les allées de la première destination touristique d'Europe. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Alors vous étiez sur place ce matin pour RTL. D'ailleurs, ce n'était pas la première journée de mobilisation.
C'est même la troisième. La première était passée presque inaperçue. C'était le 10 mai dernier avec moins de 100 grévistes. Une semaine plus tard, ils étaient environ 500 et désormais aujourd'hui, ils sont plus d'un millier. Vous les entendez siffler dans le parc devant des visiteurs étrangers qui étaient quelque peu circonspects, c'est vrai, de voir des manifestants au sein du parc.
Qu'est-ce qu'ils réclament, ces salariés ?
Eh bien, des augmentations de salaire et de la considération. C'est ce qu'explique Samir, syndicat UNSA. Il gère normalement le flux visiteur pendant la mythique parade, ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui.
On nous répète incessamment que la magie n'est pas possible sans nous, mais le problème, c'est que nous, au quotidien, on ne le voit pas. Et quand on regarde que certains de nos managers, ils ont quasiment 30 000 euros de primes par an, c'est nous qui créons la magie, donc il faudrait qu'on ait droit aussi à notre part.
Et Fabien Beyersdorf, secrétaire général de la CGT Disneyland, met la pression sur la direction.
Les conditions de vie sont difficiles avec cette inflation. La direction doit ouvrir de vraies négociations et à mettre vraiment de l'argent sur la table. Parce que ce qu'ils nous ont proposé, des éventuelles heures supplémentaires, faire des avances 13e mois, tout ça, c'est bien beau, mais c'est que temporaire et ça ne répond pas à la vraie revendication qui est l'augmentation des salaires.
Et la CGT demande également que les dimanches soient payés double.
Et la direction, parce que ces manifs, elles se déroulent, vous l'avez dit, devant les touristes. Donc en termes d'image, c'est pas terrible. Elle a réagi ?
Oui, elle a réagi. Il y a eu une réunion vendredi dernier. Elle a proposé 125 euros de primes qui s'ajoutent à des primes précédentes. Elle rappelle aussi que le niveau de revenu pour les employés ayant les salaires les plus faibles a été augmenté de 12% en moyenne. La direction a également avancé les négociations annuelles obligatoires à la fin du mois d'août plutôt qu'en septembre. Mais pour les syndicats, cela reste insuffisant. La CGT et l'UNSA, soutenues par la CFTC, vont probablement appeler à une nouvelle journée de grève. La CFDT n'appelle pas à la mobilisation pour l'instant.
Les dessous de la colère chez Mickey ce soir. Merci beaucoup Arnaud Touche.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Allez, 18h34, on vous propose une petite balade champêtre maintenant.
Laissez-vous tenter dernière.
Et on prend l'air dans Laissez-vous tenter dernière. Ce soir, on parle de la
plus populaire, la plus vendue également des fleurs. La rose, bien entendu, célébrée par le jardinier en chef du château de Versailles, Alain Baraton, dans le livre de la rose. Bonsoir Bernard Lehu.
Ça sent bon d'un seul coup.
Ah oui. Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on apprend sous la plume d'Alain Baraton sur cette si jolie fleur qui pousse dans nos jardins en ce moment?
Eh bien que les premiers à cultiver la rose ont été les Chinois, mais que les Égyptiens la vénéraient déjà à l'époque des pyramides. Alain Baraton.
La rose était très présente et on le sait en observant simplement, en travaillant sur les sarcophages où, pour le dernier voyage, eh bien on mettait dans le cercueil quelques éléments qui permettaient aux défunts eh bien de mieux voyager. Et on a retrouvé entre autres des traces de roses. On faisait également des couronnes de fleurs séchées avec des roses. Donc la rose était déjà du temps des Égyptiens, il y a quelques milliers d'années, la fleur symbole de luxe, de volupté et puis peut-être même déjà presque d'éternité.
Et dans ce livre de la rose, Bernard, Alain Baraton parle aussi et nous fait découvrir ce métier d'obtenteur.
Oui, alors c'est le nom que portent les jardiniers botanistes qui, en permanence, créent de nouvelles variétés de rosiers. Un marché prospère quand, à la manière d'un livre, l'une de ces nouvelles roses devient un best-seller et génère des fortunes pour son créateur. Alors pour les distinguer, vous le savez peut-être, on donne à chacune de ces nouveautés un nom, soit celui d'une célébrité artistique, sportive, politique, homme ou femme. On trouve donc ainsi des roses Monica Bellucci, Lynn Renault, Pierre de Ronsard, Éric Tabarly, François Mitterrand, ou alors on leur donne un mot ou une expression et parfois surprenante.
Rêve d'un soir, oui. C'est merveilleux. Un autre rosieriste a eu l'idée d'appeler ses fleurs des étoiles dans les yeux. Je trouve ça merveilleux.
Il y en a d'autres plus étranges. Vous citez crème chantilly.
Oui, le grand 8.
Aspirine rose.
Oui, le chapeau de Napoléon.
Oui, oui aussi.
C'est très curieux. Moi, le nom que je trouve le plus beau, c'est confusion. Je trouve ça merveilleux d'offrir un bouquet de roses. Vous êtes là, devant la personne que vous aimez, vous lui offrez les fleurs et elle vous demande, mais quel est donc le nom de ces fleurs? Vous répondez, confusion. Je crois que le message est clair.
Et puis vous êtes trop modeste pour en parler, mais il y a une rose Alain Baraton.
Oui, et j'en suis très heureux et très fier.
Qui ressemble à...
Elle est jaune, et j'ai choisi la couleur jaune pour trois raisons. La première, c'est que le jaune me rappelle les plages de l'Atlantique. La seconde, c'est la couleur du soleil. Et puis je ne vous cacherai pas que j'aime bien de temps en temps provoquer quelque peu. On m'avait dit, on n'offre jamais de rose jaune à une femme. On dit, en faisant ainsi, qu'elle est volage. Eh bien moi, je préfère les femmes volages aux femmes tristes, et donc j'ai voulu que ma rose soit jaune.
Voilà, Alain Baraton qui s'amuse des roses qu'il côtoie au quotidien à Versailles, Bernard.
Bien sûr, et grâce à Marie-Antoinette, hein, qui nous rappelle ce que nous rappelle le jardinier en chef du domaine, Marie-Antoinette, qui a initié la rose à Versailles.
Oui, et lorsque vous rentrez au Petit Trianon, au premier étage, vous êtes accueilli par le célébrissime Marie-Antoinette à la rose, et quand vous découvrez ce tableau, vous trouvez ça absolument merveilleux. Et il est vrai que Marie-Antoinette aimait les roses, car la rose n'était pas très présente dans les jardins à la française. La rose était peut-être trop indisciplinée pour plaire au monarque qui voulait qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil. Mais il est vrai qu'à Versailles, du temps de Marie-Antoinette, les rosiers vont investir le territoire.
Alain Baraton signe l'érudit et plaisant livre de la rose. C'est aux éditions Grasset.
On peut remercier Marie-Antoinette. Donc, merci beaucoup Bernard Lehu pour cette plongée dans le monde des roses ce soir. Tiens, autre idée détente après le jardinage avec ce soleil, offrez-vous une glace.
Ah oui.
Cette saison, ça inspire les trublions dont défait le monde. Ah d'ailleurs, oui. Qui sont en train de nous rejoindre parce que c'est la suite dans RTL Soir. Cyprien Cini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Les sorbets, les crèmes glacées cette saison. Et c'est un marché absolument monstrueux qui explose avec les fortes chaleurs. En plus, il fera de plus en plus chaud, donc on vendra de plus en plus de glace. Comment la glace se réinvente? Pourquoi elle cartonne malgré l'inflation? On vous dit tout sur cette passion française juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL. It's a bad game.